Oui, alors il est 19h08 pour être précise, mais comme le jingle vient de l'annoncer, il c'est Panique sur la ville, émission donc d'information. Et donc ce soir, alors un sujet qui touche à l'énergie. Nous accueillons Sébastien, Seb Meyer, comme on l'appelle parfois. Salut Seb.
Salut.
Voilà, il a réussi à franchir les 5 étages, il a passé l'épreuve, donc c'est bon. On est parti pour une petite heure de discussion sur un projet qui a déjà quelques temps d'existence, combien de temps plus ou moins? Alors on parle de Negawatt, hein, avec un N.
Alors si on parle de Negawatt Belgium,
oui,
donc l'association belge, dont on va plus parler ce qui nous concerne, mais nous on est assez jeunes, donc on a été créé officiellement en avril 2022, donc il y a un an et demi, mais on y travaille depuis maintenant presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans en fait, plus ou moins, période du Covid, début du Covid. Et alors on vient un peu dans la lignée d'une association française qui s'appelle l'association Negawatt, qui elle existe depuis 21 ou 22 ans, je crois 22 maintenant, et qui eux donc sont très reconnus et... C'est d'ailleurs, ils ont même été cités dans le dernier rapport du GIEC pour avoir porté la question de la sobriété énergétique. Donc le fait d'être sobre dans sa consommation, de réduire la consommation par la réduction du besoin. Et c'est vraiment ce qui est à la base de la démarche de Negawatt, puisque néga c'est négatif. Beaucoup de gens entendent souvent mégawatt, mais c'est pas méga, c'est néga. Donc c'est vraiment négatif, c'est diminué. Et c'est, voilà, c'est la raison d'être principale de la SOS.
Ok, alors on va s'organiser ici pour cette émission en trois moments. Donc il y aura un premier moment, on va parler en général un petit peu du cadre, certaines questions fondamentales en rapport avec l'énergie, pourquoi toi ça te parle, ton parcours, ton lien à cette question-là. Ensuite on attaquera après une pause musicale la question du scénario énergétique, comment se projeter dans l'avenir au niveau énergétique. Et comment le voit donc Negawatt. Et puis on parlera la question du débat citoyen, comment les citoyens peuvent s'approprier la question de l'énergie, puisque c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant, que les citoyens on sache un petit peu plus sur les options qu'il peut y avoir et qui puissent influencer le débat et les décisions. Alors, première partie, donc, c'est un peu scolaire, mais c'est vrai qu'on sort un petit peu de notre créneau musical aujourd'hui. Donc, la question de l'énergie, donc, en général, comment est-ce que tu es arrivé là-dessus? On avait déjà un peu présenté ton association durant ce fameux été indigène sur les bords de l'Ourthe, mais aujourd'hui, la parole t'est donnée pour le faire de manière un petit peu plus approfondie. Donc, vas-y, prends ton temps.
Alors, peut-être juste moi, en fait, j'ai une formation à la base d'ingénieur civil en énergie, enfin électromécanique, orientation énergie, formé à l'UC Louvain. Et donc, moi, ce qui m'avait amené là-bas, c'était la question du développement durable. Je m'intéressais beaucoup, il y a une vingtaine d'années, en fait, déjà, à ces questions-là, plus au niveau sociétal, de voir comment on prend en compte toutes les dimensions et on va vers peut-être un autre système que celui dans lequel on est. Et j'ai un peu quitté le sujet, en fait. J'ai fait tout à fait autre chose. Après, j'ai fait de l'éducation populaire en Amérique latine avec de l'agroécologie. Je me suis beaucoup plus intéressé à la question de l'énergie, des calories, en fait, qu'on mange, l'alimentation, l'agriculture. Comment est-ce qu'on peut changer le modèle agricole? Aller voir des mouvements paysans aussi. Et puis, un peu par hasard, je suis revenu finalement à l'énergie, ça ne nous quitte jamais. J'étais en Équateur, j'avais pas d'eau chaude à 3000 mètres. Je me dis, tiens, pourquoi pas faire un système solaire et j'ai commencé à faire un chauffe-eau solaire et puis ça m'a remis en contact avec des étudiants qui étaient intéressés pour faire un mémoire sur le sujet avec moi. Et donc depuis un grand voyage que j'ai fait en Amérique latine, j'ai recommencé à faire des choses d'ingénieur, et puis récemment, tous les débats sur le futur système énergétique, notamment le fait de considérer que le nucléaire redevenait indispensable alors qu'on avait décidé il y a déjà un certain temps, a priori, qu'on en sortait.
En Belgique.
Et ce que j'entendais dans les discussions m'a poussé en fait à m'y réintéresser en disant ouais, qu'est-ce qui se passe en fait, où est le modèle alternatif que j'attendais et que je pensais était en route. Et donc on est quelques-uns à s'être penchés là-dessus et ça nous a motivés à créer cette association Négawatt. Ça c'est pour moi. Et sinon pour le thème, ben, je pense que l'énergie, c'est, enfin on l'a beaucoup vu l'hiver passé. Je pense qu'on va le voir de plus en plus. Pour plusieurs raisons, il y a la question climatique qui fait qu'on doit émettre moins de gaz à effet de serre, mais il y a aussi la question de, tout simplement, du prix de l'énergie. L'énergie se raréfie et du coup beaucoup de gens, quand même si on sait que le prix de l'énergie c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours rationnel, mais en tout cas on s'attend à ce que le prix augmente dans les décennies, enfin les années, les décennies qui viennent. Du coup ça pose la question de comment est-ce qu'on fait pour pour s'organiser, puisqu'en fait on l'oublie souvent, mais l'énergie, ça fait partie de tout ce qu'on fait, de ce micro, de tout notre système électrique, mais notre façon de nous déplacer, de nous chauffer, enfin à peu près tout ce qu'on fait en fait, et toutes les transformations de notre société thermo-industrielle.
Du coup, bon, par exemple, dans les... Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà dans la deuxième partie, mais dans les préoccupations, donc... Dont tu m'as fait part, bah celle de ce passage à l'électricité, non, et de la recherche d'une autre forme d'énergie, l'électricité, qui pourrait être plus nôtre, peut-être, plus belge, plus quelque chose qu'on développe par nous-mêmes. Tu parlais de la question des bornes d'alimentation des voitures électriques, hein, comme un. Quelque chose qui te... Voilà, on sent que ça pousse un peu partout comme des champignons. Quelle est l'idée derrière ça? Enfin, pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière? C'était quelque chose qui t'a fait réagir, en tout cas, d'emblée.
Oui, ben, disons que c'est un sujet qui est... C'est un des sujets centraux dans ce qu'on appelle la transition énergétique maintenant. C'est par exemple la question de comment on va se déplacer demain. Et pour nous, la voiture électrique, c'est pas la solution. Ça peut être une partie, mais une petite partie de la solution. Mais le problème, c'est que si on pense qu'il faut changer notre source d'énergie, mais continuer à consommer, à vivre comme on vit maintenant, ben en fait, ça représente... ça, on a des calculs. Bon, nous, on en a fait un petit peu moins que nos voisins français sur le sujet, mais en termes de batteries, en termes de consommation de matériaux, enfin des bagnoles de 2 tonnes qui parfois transportent une personne, et imaginez que ça va pouvoir remplacer tous nos véhicules thermiques, ben c'est un leurre. Bon, on sait déjà qu'il y a la question du prix, tout le monde ne pourra pas se payer une voiture électrique, mais c'est aussi un choix de société, puisque est-ce qu'on choisit de mettre beaucoup d'argent public dans des infrastructures qui vont effectivement faciliter des bornes de recharge rapide un peu partout? Ou bien est-ce qu'on favorise un peu plus quand même le transport en commun? Or, à l'heure actuelle, par exemple, à la campagne, ce n'est pas du tout prévu. En ville, en termes de fréquence, ou entre les grandes villes, oui, et la SNCB, il y a des plans. Mais en termes de transport en commun, dans les campagnes, pas du tout. Et du coup, il y a des grosses questions sociétales qui se posent, rien que par exemple avec cette question de la mobilité des personnes dans le futur. Donc oui, c'est une question qui nous préoccupe. Donc pour nous, il ne faut pas dire, tiens, on ne peut plus utiliser du pétrole... du gaz, des énergies fossiles, et alors on utilise autre chose. Donc il y a ceux qui sont plus pour le renouvelable comme nous, il y en a qui disent ah non, le nucléaire c'est très bien, c'est une très bonne solution, c'est pas notre choix, mais voilà, c'est un de ces deux trucs là vers lesquels on doit aller. Ces deux là font de l'électrique, la plupart des énergies renouvelables produisent de l'électricité, le nucléaire aussi, avec on récupère la chaleur dans une turbine, mais en gros on fait de l'électricité avec. Et du coup, est-ce qu'il s'agit simplement de changer le combustible, on va dire, la ressource? Ben non, nous on pense qu'il faut changer le besoin, qu'il faut changer la manière de s'organiser pour réduire notre consommation et donc notre impact global, que ce soit environnemental ou même social, toute la pollution de l'extraction des minerais, etc.
Ok, alors tu nous as donné un petit exemple, une petite introduction, un petit parfum. On va continuer, on va faire une petite pause musicale. On avait prévu ça. Alors c'est une chanson qui peut-être indirectement hein, mais tu sais on essaie de raccrocher toujours un peu, parle d'énergie. C'est il s'agit d'un artiste espagnol qui parle de ses appartements qui font 30 mètres carrés. Il dit comment est-ce qu'on va faire, il reçoit sa copine chez lui, comment on va faire pour se retrouver comme il faut avec un appartement de 30 mètres carrés. Il va falloir peut-être accrocher, il va falloir que tu m'accroches sur le mur avec du velcro parce qu'il n'y a pas d'espace entre la plante qui prend un certain espace, l'autre ici. Alors je ne sais pas si ces genres d'appartements avaient été faits à l'époque pour des économies d'énergie ou d'espace. À mon avis, c'est plutôt l'effet un peu cage à poules, tout simplement, quoi. Mais bon, on y reviendra peut-être plus tard sur l'isolation des bâtiments et toutes ces histoires. On écoute en attendant 30 metros.
Con los 30 metros que tiene el piso, voy a tener que ponerte yo de velcro. Pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro, ni el gato, ni la maceta de los helechos. 30 metros pa' quererme, 30 metros pa' perderte. Y otro 30 para empezar de nuevo, porque una casa no son cuatro paredes, una casita es donde se vive, se sueña y se muere. Con los 30 metros del piso mío, voy a tener que ponerte yo de velcro. Pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro, ni el gato, ni la maceta de los helechos. Pa' quererte, 30 metros pa' perderte, y otro 30 para empezar de nuevo, porque en todas las ciudades hay más casa pa' los coches que casa para los amantes. Con los 30 metros del piso mío,
voy a tener que poner el techo de velcro.
Pa' cuando tú vengas a quererme, no nos moleste ni el perro, ni el gato, ni la maceta de los helechos. 30 metros pa' quererte, 30 metros pa' perderte, y otro 30 para empezar de nuevo.
Et après, on passe au
scénario.
Et voilà, on est toujours en ligne avec Djibouti sur... Pas Djibouti ce soir, c'était Panique sur la ville. Panique
attention
sur la ville.
Attention, YouTube.
Oui, oui. Et le YouTube est bloqué maintenant. Alors, discussion très intéressante. Moi, j'interviendrai quand on développera un petit peu, parce que là, c'était juste une petite introduction, un petit teaser.
Exactement.
Mais il y a déjà plein de choses, évidemment, dans ce qui est dit, qui
t'émoustille.
Qui me font penser à plein de choses. On en reparlera.
Ok, donc on est avec Seb Meyer, représentant de l'association NEGA, avec un N, Negawatt.
Donc, Belgium.
Belgium, effectivement. Donc, qui milite et qui promeut une sobriété en matière d'énergie. Et il semble que la première chanson inspirait quelque peu Sébastien, puisqu'on parlait ici dans la chanson d'un appartement de 30 mètres carrés. Alors bon, là, on était un peu dans les appartements type appartement fait... à l'usine, les cages à poules, hein, pour nourrir des gens qui doivent bien travailler. Il leur faut quand même hein, un toit. On retourne dans le passé. Mais c'est sans doute encore des choses qui se font de nos jours dans certains endroits. Ça t'inspire quoi, toi, Sébastien, cette idée donc de dire on va diminuer la taille des appartements. Alors dans ce cas-ci, avec une visée de réduction de la consommation d'énergie, puisque tu parles là d'une espèce de stratégie politique pour répondre à ces problèmes énergétiques.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a une grosse disparité dans la taille des logements entre les Belges ou un peu partout dans le monde. Mais en Belgique, on est quand même plutôt en moyenne sur des logements assez grands. Alors, ce n'est pas l'appartement dont tu parles. Là, si j'ai bien compris, 30 mètres carrés, c'est pour deux personnes, parce qu'il a du mal à voir comment est-ce qu'on va faire à deux. Donc, ça fait 15 mètres carrés par personne. Alors, il faut savoir que dans notre scénario Négawatt, en tout cas le scénario Clever qu'on a fait au niveau européen, donc on a pris tous les pays européens et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de mesures de sobriété pour arriver à quelque chose qui tienne la route et qui soit moins énergivore, qui ait moins d'impact et qui soit aussi éthique et équitable entre les pays. Et donc, on s'est mis un espèce de corridor, on appelait ça, et pour la question de la taille des logements, on s'est dit, ben, en moyenne, il faudrait qu'on soit entre 32 et 40 mètres carrés par personne. Donc, ça fait quand même un peu plus que les 30 mètres carrés de la chanson, parce que là, c'est par personne, donc ça voudrait dire...
Pas tout à fait, parce qu'en fait, il reçoit sa copine, mais donc, on n'est pas vraiment sûr qu'ils habitent ensemble... Tu vois,
ok, ils en ont un chaque genre, quoi. Ouais. Mais alors on est proche peut-être de la taille supposée comme sobre. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y en a qui habitent dans moins que ça, et il y en a qui habitent dans beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et du coup, il y a une question d'équité, et ben, c'est clair que plus on a un logement grand, a priori, plus on a des besoins en chauffage. Maintenant, on peut aussi chauffer moins de pièces. Et alors ça, c'est la question de qu'est-ce qu'on chauffe et à quelle température. Ça, c'est vraiment lié aux besoins. Donc ça, c'est de la sobriété. Si on réduit la taille, la surface, le volume à chauffer et qu'on réduit la température de la pièce, ça, c'est des mesures que nous, on appelle la sobriété. Et puis, il y a tout ce qui est isolation. Ça, c'est un peu améliorer l'aspect technique du bâtiment. Donc faire que si on chauffe, ben, la chaleur, elle ne part pas directement à l'extérieur. Elle reste un peu à l'intérieur. Ça, on appelle ça l'efficacité. C'est un peu deux leviers qu'on peut avoir et en les combinant, on diminue la consommation d'énergie. Alors, il faut que ça se passe au niveau global, au niveau belge, grandement, parce qu'en fait, il faut savoir que si on prend le secteur logement, trois quarts de toute la dépense énergétique des logements, c'est le chauffage. Le reste, c'est peut-être l'eau chaude. L'eau chaude n'est pas dedans, l'eau chaude sanitaire... les appareils électroménagers, etc. Mais trois quarts, c'est le chauffage. Donc si on résout, on va dire un petit peu cette question du besoin en chauffage, on arrive à l'amoindrir, ben, on a un gain énergétique conséquent et aussi sur la facture. Maintenant voilà, on peut être locataire. Est-ce que 30 mètres carrés, il est propriétaire, il est locataire? Voilà, si on est locataire, on n'a pas les leviers pour isoler son logement. Déjà aussi, ça coûte quand même assez cher, l'isolation. Du coup, il y a toute une série de questions sociales qui se posent sur cette question-là, en termes de prix des logements, en termes de comment est-ce qu'on va faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, comme on a déjà vu il y a un an. Mais globalement, il faut surtout que les logements les plus gros et les plus gros consommateurs soient divisés. Il y a aussi la question de partager les logements. Par exemple, nous, on habite dans une maison sur deux étages, mais on est deux familles. C'est assez rare, on est une colocation de famille. Mais on promeut ce genre d'habitat, un peu plus de collectif. C'est pas forcément toujours facile, mais ça peut marcher. Voilà un petit peu ce que ça m'évoque.
Ouais, ouais. ok. Bel exemple. Hein. ouais. Alors après, bon, on va passer, donc, c'était ça un peu l'idée, on va passer à la vision un peu prospective, pour utiliser un mot qui ronfle, c'est-à-dire orienté vers le futur. Hein. Tu m'as parlé toi-même de scénario. Donc scénario, c'est une manière de prévoir quelque chose pour le futur. Et vous avez ça dans votre, enfin dans votre manière de travailler, dans vos, comment dire, dans vos, je vais utiliser un mot anglais, hein, ça fait bien, guidelines, dans les fils rouges peut-être qui va vous guider. Alors, tu nous diras peut-être. Puisque tu l'as cité tout à l'heure, tu as cité le nom de ceux qui ont produit ce scénario. Alors ça, peut-être si tu as le temps, hein, nous expliquer peut-être un tout petit peu. Bon, ici, il y a une voix, qu'il y a une consultation entre un pas mal de pays de l'Union européenne, donc qui se sont, qui ont à partir de Négawatt France, des données, des infos ont été collectées en quelque sorte pour arriver à ce scénario. C'est un peu comme ça que je l'ai compris. Hein. Mais peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'il a été produit d'abord, puisque bon, Clever, c'est rigolo déjà le nom, scénario Clever, Collaborative Low Energy, et alors ça veut dire quelque chose en plus évidemment, le scénario Clever veut dire Collaborative Low Energy Vision for the European Region. Ça rime en plus. C'est bien foutu déjà.
T'as bien raison de te foutre un peu de la balle de ces ingénieurs. Moi j'étais contre ce nom.
Ouais.
C'est un truc d'ingénieur de se croire intelligent, tu vois. Non, mais c'est grave. Ouais. Moi, c'est une déformation professionnelle. Mm-hmm. On te dit que t'es intelligent, on te dit que t'as tout compris. et on te dit que les sciences sociales... Non, mais c'est sérieux. On te dit dans tes études que les sciences sociales, c'est un truc de seconde zone, etc.
Mm-hmm.
Non, mais vraiment, c'est grave. Et,
ouais.
Et à ma connaissance, ça n'a pas encore totalement changé dans la formation.
Mm-hmm.
Et donc, voilà, j'aime beaucoup les gens qui participent à ça. Il y a beaucoup de chouettes personnes, mais voilà, ce nom, pour moi, il y a une connotation aussi d'un petit billet de la profession un peu ingénieur, de dire, ah, tu vois, clever, on va faire un truc intelligent, parce que c'est intelligent, la traduction. Alors, ceci dit, ça me semble un petit peu plus enthousiasmant que d'autres scénarios qui existent. Donc, tu parlais, c'est quoi un scénario ? Mais nous, en fait, on s'est dit, ok, tu as une vision, tu as une utopie, tu as une image de ce que tu voudrais voir arriver comme société demain. Par exemple, en prenant le côté énergétique, mais le côté énergétique est un peu structurant dans comment la société fonctionne. C'est quand même un gros pilier.
Bien sûr.
Mais c'est bien d'avoir une vision, mais on fait comment, quoi, pour y aller? Et c'est ça, en fait, la question d'un scénario, on pourrait dire une trajectoire aussi, c'est de dire, il faut mettre en place d'ici à là-bas toute une série de choses. Et en fait, ces choses-là, tu ne les décides pas du jour au lendemain, quoi. Parce que tu as des temps d'installation, des temps d'études d'incidence de tous les projets, tu as tout un système à construire. Enfin, tu ne rénoves pas des bâtiments... Et ça, c'est clair que même le parc de bâtiments belge d'ici 2050, on a des scénarios qui disent on va y arriver. Beaucoup de gens qui disent on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. En fait, on n'y arrivera pas. Moi, je crois aussi qu'on n'y arrivera pas. Je pense que dans Clever, j'ai supposé vraiment en faisant un gros effort qu'on allait arriver à rénover 80% du parc belge, ce qui est déjà pour moi optimiste, ça veut dire que toutes les vitesses de rénovation actuelles explosent. Enfin, pour l'instant, on rénove 1% des bâtiments par an. Il faudrait arriver à 3%. Donc tripler, en fait, la vitesse de rénovation, ce qui est très, très, très ambitieux. Enfin bref, tout ça pour dire, on fait des scénarios pour avoir l'air un peu sérieux, factuel, en disant c'est un chemin possible, techniquement réalisable. Et alors, une des options que Négawatt France, les partenaires Clever, nous-mêmes, on choisit, c'est on va pas faire le pari sur des technologies qui n'existent pas, ni d'ailleurs sur le nucléaire. Le nucléaire qui va prendre énormément de temps pour être installé, si on fait du nouveau nucléaire. Et pour nous, ça vient déjà trop tard par rapport à l'horizon climatique, la vitesse à laquelle il faut enclencher tous les changements. Donc, tout ce qui est capture de carbone, par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler. Pour nous, ça reste à l'heure actuelle. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas exister, et ça va exister, et on va avoir des projets qui seront là, qui sont déjà financés, etc. Mais dire que ça va être une solution majeure, on n'y croit pas. Pour nous, ça reste presque de la science-fiction. En tout cas, tout ce qui est capturer le CO2, donc le dioxyde de carbone dans l'air, pour dire qu'on va le... C'est extrêmement énergivore, ça coûte très cher, et pour nous, c'est prendre le problème par le mauvais bout. Voilà. Peut-être juste par rapport à Clever. Donc en fait, c'est.
Je sais pas si tu veux aborder l'histoire des trois principes qui sont vus d'une autre manière, mais c'est peut-être un peu théorique, ça, je ne sais pas.
Les trois principes.
Bah, l'histoire de l'efficacité, la sobriété, comment ils s'articulent ici plutôt qu'ailleurs. Bon, je ne sais pas si c'est facile à expliquer. Ça.
Donc en fait, j'ai parlé de si on veut réduire la consommation.
Puis aussi Hubert qui apparemment, ça y est, il se sent. Il se sent d'eux.
Donc on a deux leviers, je disais, on a la sobriété qui est réduire l'usage, vraiment ce qu'on a besoin comme énergie. Et puis il y a l'efficacité, ben, pour un certain besoin, tu vas avoir besoin, en utilisant par exemple une technologie donnée, ça va te nécessiter autant d'énergie à l'entrée, en input. Et en output, c'est ce que tu as besoin, mais en fonction de la technologie, tu vas utiliser plus ou moins de ressources. Donc par exemple, bon, c'est pas forcément un exemple qu'on prend toujours avec la voiture électrique pour dire « Ah, la voiture électrique, elle est plus efficace, le moteur électrique, que le moteur thermique. » En hiver, on est content quand même d'avoir du chauffage dans notre voiture. La petite voiture électrique, pour donner du chauffage, elle a du mal. Mais sinon, c'est des pertes, tout ce qui est en chaleur. Mais à côté de cette consommation qu'on peut réduire, enfin qu'on doit réduire, il y a la production, on doit bien produire de l'énergie, et après il faut que les deux matchent. Il faut qu'on ait... alors si on veut, on parle d'un système électrique, le système électrique c'est très sensible, à tout instant il faut qu'on produise autant qu'on consomme, sinon le système il saute. Et du coup, comment est-ce qu'on produit ? Et en fait, c'est ça le troisième levier dont tu parlais dans un scénario négawatt, c'est que nous, c'est les énergies renouvelables. Donc on est pour des scénarios 100% renouvelables. Renouvelables, ben, c'est des éoliennes, des panneaux solaires, éventuellement de l'hydroélectrique, la biomasse sous différentes formes, donc le bois, biogaz, voilà, ce genre de choses. Et si on applique les deux premiers leviers, donc sobriété et efficacité, c'est faisable.
Oui, parce que d'après ce que j'ai compris, donc le renouvelable chez vous vient après. Si on applique ces deux principes-là, le renouvelable vient comme quelque chose en support, on va dire. Tandis que dans beaucoup de systèmes actuels, ils sont en train de se dire on va tout faire en renouvelable. Mais pour résumer de ce que j'ai compris.
Si tu te dis on a un problème, ce que je disais avec les énergies fossiles, on doit simplement remplacer les énergies fossiles par des énergies autres.
C'est pas possible, en fait.
Mais ça, c'est une démarche. Mais tu peux ne pas regarder la consommation. Nous, on dit on va d'abord regarder le besoin. Une fois qu'on a réduit le besoin au maximum, et pour ça, ben, on essaye de voir qu'est-ce qui est aussi éthique. Il ne faut pas, quelqu'un qui a déjà du mal à se chauffer, tu ne vas pas lui dire qu'il doit encore diminuer le thermostat. Ou quelqu'un qui est malade. Voilà, il y a vraiment toute une série de choses à prendre en compte dans l'élaboration de tout ça. Mais ça, c'est un choix vraiment qui a été porté depuis assez longtemps par, ça s'appelle le triptyque, hein, ces trois leviers, donc sobriété, efficacité, renouvelable, par Négawatt France. Et alors l'ensemble des partenaires, presque tous, je pense, de ce projet européen, ce scénario européen Clever, sont dans la même démarche. Et ça, ce sont juste pour... ce ne sont pas des gouvernements ou quoi que ce soit, hein, ce sont des associations, des universités... voilà, c'est des ONG, c'est ce genre de milieu.
Merci pour la précision.
Alors, moi, je voulais intervenir sur le mot clever. Je trouve ça vraiment bien joué de faire clever, parce qu'à défaut d'être sympathique, ça doit être au moins intelligent. Parce que tu parlais, je m'explique, je me fais l'avocate du diable, évidemment, et je m'explique. parce que tu parlais de toutes les limites techniques pour arriver à ce scénario, mais je crois que la plus grosse limite, ça va être l'acceptation de ce scénario par la population. Ça va être la plus grosse limite, je pense, et donc il faut au moins que ce soit intelligent, parce que les gens vont pas trouver ça sympathique, je pense. Ou alors il faudra vraiment avoir de la pédagogie, mais quand on voit comment on pousse les gens à consommer, et comment vous, des petites associations... essayer de réduire la consommation, mais vous ne pesez rien du tout par rapport à la puissance de la publicité, du marketing, et même des gouvernements qui veulent de la croissance encore, et comment vous avez envisagé ce côté, la lutte contre le besoin de consommer qui est poussé à fond par l'industrie, par les lobbies, les gouvernements?
Alors c'est clair que c'est un vrai défi, ça c'est sûr. Par contre, on est convaincu, et on n'est pas les seuls à être convaincu, que de toute façon on n'aura pas le choix. Qu'on a un mur énergétique qui arrive.
Ouais.
Alors tout le monde n'y croit pas, hein. Y en a qui disent non, on va continuer, on va toujours avoir plus de ressources, on va encore aller chercher du pétrole ailleurs. Bon, faut savoir que si on veut rester dans les limites climatiques, on est censé laisser normalement 2/3 de tout ce qui reste en énergie fossile dans le sol. Sinon, on passe au-dessus des 2 degrés. Donc si déjà on va trop pomper dans les fossiles, ben, on dérègle d'autant plus le climat en termes de... Bon, après, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de tous les pays, évidemment, sur la planète. Mais quoi qu'il en soit, moi, je ne crois pas que les prix actuels de l'énergie, la disponibilité actuelle et au rythme auquel ça va, moi, je ne pense pas que ça va tenir. Alors, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire si c'est dans un an, dans 10 ans ou dans 30 ans. Mais en tout cas, moi, je pense que ça ne va pas être une question là de choix individuel ou de propagande de consommation pour orienter les comportements pour consommer. Je pense qu'il va y avoir un truc où on n'aura pas le choix et on va devoir s'organiser autrement. Alors nous, la proposition, c'est pensons-le dès maintenant pour pouvoir le faire de façon organisée et peut-être un peu solidaire. Alors voilà, on ne sait pas. Peut-être que spontanément, on sera solidaire quand ça se passera de façon chaotique, si on va vers ça. Mais en tout cas, il y a un peu cette question-là. Nous, pour nous, on pense qu'on n'aura pas le choix.
Alors, c'est effectivement une des théories de Jean-Marc Jancovici, hein, qui dit... Au lieu d'avoir de la décroissance subie, organisons-nous avant qu'elle soit subie et qu'elle pose des problèmes. Moi, j'ai l'impression, j'ai un petit peu peur que cette poussée de populisme, il y a entre autres l'angoisse climatologique qui pousse les gens dans un déni et donc qui les pousse vers des partis qui sont dans le déni total de ce problème climatique. J'ai l'impression que c'est pas que ça, hein, mais je pense que c'est un des arguments, et ça me fait un peu peur. Moi, je suis en train de me dire, oulala, les gens vont pas vouloir, et ils vont voter pour des gens qui ne veulent pas non plus et qui vont prendre le pouvoir. Voilà.
C'est pour ça qu'il y a, à mon sens, et pas que sur la question climatique ou écologique ou de l'énergie, il y a un besoin énorme de débat dans la société,
ouais.
Et c'est vraiment pour ça qu'on a, nous, on croit à faire un scénario qui part de la base, en fait.
Mm-hmm.
Je crois qu'il y a effectivement une perte de confiance dans le système politique. Là, on parlait du niveau européen. Je pense que la perte de confiance, elle est assez costaude aussi à ce niveau-là. En partie à raison. Hein. On peut en discuter un peu, mais en tout cas, nous. On est convaincu qu'il faut se retrousser les manches et discuter. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'arguments climato-sceptiques qui peuvent être démontés. Et alors, il n'y a pas que la question du climat, en fait. Parce que c'est vrai que le climat aujourd'hui prend... et encore, dans le climat, on ne parle que du CO2. Et c'est ce qu'on appelle, c'était passé sur des réseaux sociaux, le tunnel, le carbon tunnel, le tunnel carbone, où en fait il y a toute une série de dimensions qui sont en train de péter un peu partout, la biodiversité par exemple.
Ouais.
Et en fait on ne regarde qu'une chose, le CO2, et alors il y avait même quelqu'un qui avait transformé cette image en mettant la tête d'Alexandre de Croo, qui regardait juste le CO2, comme si c'était le seul problème. Alors qu'on sait qu'en termes de limites planétaires, quasiment toutes sont dépassées. Celles qui sont mesurables, il y en a qui n'ont pas encore été mesurées convenablement. Et en termes de limites sociales, il y a énormément de conditions sociales qui ne sont pas remplies, y compris dans notre pays, mais à l'échelle planétaire. Nous, c'est une des boussoles en fait, qui nous guide dans notre action et qu'on voudrait montrer en fait, qu'est-ce que tel ou tel choix politique... a comme conséquence sur les limites sociales et environnementales. C'est le, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais l'économie du donut. C'est un peu cette représentation avec, comme un donut avec au milieu ce qu'on appelle le plancher social. Donc ce sont toute une série d'indicateurs qu'il faut au moins satisfaire à un minimum, je dirais, vital pour chacun. Et puis il y a l'extérieur du donut, qui est le plafond en fait, environnemental, qui sont des limites environnementales qu'il ne faut pas dépasser. Et en fait, l'espace de solution, pour parler ingénieur, dans lequel il faudrait se trouver, c'est entre les deux. Et donc, pour nous, le débat, il doit se situer là-dedans. tout ce qui vient nous mettre en dehors, enfin, ou au milieu, ou à l'extérieur, pour nous, ça ne doit pas avoir lieu. Le débat doit se situer là. Mmh.
Alors, l'histoire du donut, oui, c'est vrai, j'étais tombé dessus. Bon, moi, je ne suis pas scientifique, hein, donc... voilà, je ne sais pas si tu peux développer un petit peu ça, parce que tu l'as résumé, là, en fait. Hein,
ouais.
Mais en fait... un petit peu plus concrètement...
Tu peux avoir des mesures environnementales qui sont antisociales. Mm-hmm. Tu parlais de la taille des logements.
Ouais.
Tu pourras avoir une obligation... on peut imaginer, hein, on va se faire une écologie un peu autoritaire, tu vois. Ça, c'est déjà en train d'arriver. L'interdiction des voitures, par exemple, pour rentrer dans Bruxelles. Il y a des gens qui peuvent très bien s'en passer. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur de s'en passer. Et donc, tu as un côté social, en fait, quand tu prends des mesures. Alors là, on est encore plus ou moins soft, mais il y a des choses un peu moins soft qui arrivent. Je n'ai pas encore vu entièrement les mesures qui se pensent au niveau européen. Donc, il y a le système ETS, on appelle ça. C'est des quotas d'émissions CO2 au niveau des entreprises, qui au départ ne fonctionnaient pas du tout parce qu'en fait, on payait les entreprises pour émettre. C'était magnifique, ils recevaient de l'argent. Pendant des années, ça a été comme ça. On a donné de l'argent aux entreprises pour qu'ils émettent du CO2. Et maintenant, ils doivent payer parce qu'ils émettent trop. En fait, on descend le plafond chaque année. Maintenant, heureusement, on a descendu le plafond assez bas. Donc maintenant, ils doivent payer à la tonne de CO2. Donc ça, c'est dans les entreprises. Mais en fait, il y a un truc pareil qui s'amène pour les autres secteurs, notamment le résidentiel. Et là, c'est beaucoup plus touchy parce que, OK, tu fais comment quand quelqu'un a déjà... pas les moyens, n'a peut-être même pas toutes les clés ou tous les, enfin, tes locataires, etc. Comment est-ce que ça se répercute, cette histoire de la tonne CO2 avec un système de chauffage qui n'est pas efficace, quoi. Et là, enfin voilà, tu vois. Mm-hmm. Donc en fait, la question sociale, pour nous, elle doit aller avec la question environnementale dans une même réflexion et pas du tout être séparée.
Alors, donc juste pour revenir sur ta remarque, Hubert, et je ne sais pas si par rapport à ce qu'a répondu Sébastien, comment tu le perçois, quoi. Mais en fait, tu es en train de dire que quand on va trop pousser dans une tendance écologiste, ça va produire l'effet inverse au niveau des gens, et ils vont réagir pour fuir en quelque sorte.
Écoute, c'est
cette tendance politique-là et aller vers d'autres qui sont à l'opposé.
C'est assez simple. Tu demandes à tous les gens qui ont acheté des 4x4 d'acheter des petites Zoé, et tu sais bien que la voiture, ça sert pas juste à transporter des gens ou du matériel, ça sert aussi à montrer son niveau social, sa réussite. Ces gens-là, ils vont péter les plombs, hein. Si tu leur demandes de rouler en Zoé, là, pour eux, c'est intérieurement, c'est symbolique, c'est émotionnel, ça va péter les plombs. Donc, je sais pas très bien. Voilà, je me pose la question. Est-ce qu'il faut plutôt agir au niveau de la publicité, au niveau de règles de production? Voilà, on ne peut plus produire de voitures de plus d'une tonne et demie ou des choses comme ça.
Ça, c'est un des points très précis de plaidoyer du scénario La Clever au niveau européen.
Okay.
C'est de mettre des normes au niveau exactement...
de l'industrie.
De l'industrie automobile en termes de masse, de poids et en termes de vitesse. C'est tout à fait... Par contre, pour moi, ça c'est déjà au niveau 2. Hein. Le premier niveau, c'est faire tout ce qu'on peut pour maximiser... transport en commun et ce qu'on appelle la mobilité douce, donc à pied et à vélo. Et en fait, le vélo, maintenant qu'on a la possibilité vélo motorisé, vélo électrique, qui se développe vraiment beaucoup, le vélo, je pense, peut vraiment prendre une espèce de part de marché dans la mobilité vraiment importante. Mais de nouveau, comment est-ce qu'on prend le problème au départ ? Alors, évidemment, il y a du débat social, mais des bagnoles pour tout le monde, changer les thermiques en électrique, ça se fera pas. Mm-hmm. Ça se fera pas parce qu'on n'a pas les matériaux. Mm-hmm. Et du coup, il y a aussi la question de l'équité, alors au sein d'un pays, mais même au niveau mondial. Donc l'approche, par exemple, de ce scénario Clever, on se dit, ben voilà, on a un espèce de budget carbone. Si on se met à jouer le jeu qu'on a tous droit à émettre la même quantité de gaz à effet de serre au niveau mondial, donc autrement dit par rapport à la population d'un pays, ben, ça réduit d'autant plus ce qu'on peut émettre par exemple dans un pays comme la Belgique. Aujourd'hui, quand on voit, il y en a énormément, ils travaillent avec le PIB. Mmh. Ah, on peut émettre par rapport au PIB. Mais donc ça veut dire que si un pays a un PIB élevé, ben, il a le droit d'émettre beaucoup plus. Mmh. Ça ne semble pas très juste. Donc une des particularités, par exemple, de ce scénario-là qu'on a fait, c'est de dire, ben non, on divise pas seulement les émissions, mais aussi l'utilisation des ressources. Parce qu'évidemment, si on peut utiliser tout le lithium de la planète pour faire des bagnoles électriques en Europe, et que le reste, on s'en fout, alors peut-être qu'à la limite, non, et encore, ça ne matcherait pas, mais peut-être qu'on peut avoir beaucoup de voitures électriques, un énorme parc. Mais si on commence à dire, non, on ne peut puiser que la part qui correspond à notre population dans les réserves prouvées, et encore, l'autre chose, c'est est-ce qu'il faut réellement aller exploiter toutes ces réserves prouvées ? Ça change très, très fort. Donc là, par exemple, c'est un des trucs qui vient contraindre très fort nos scénarios, en termes de nombre de voitures, parce que la batterie, le lithium, par exemple, est un des trucs critiques qui fait que, ben non, ça ne marche pas. Il faut moins de voitures.
Mmh. C'est sûr, mais je pense que ce scénario de nombre, de volume de CO2 émis par habitant, les pays riches vont faire sécession, quoi. Ils vont pas accepter ça. Hein. C'est une décroissance comme ça, pour eux, c'est une décroissance terrible, quoi.
Alors oui, en même temps, alors bon, nous on n'est pas alors Négawatt France ne le fait pas, nous pour l'instant on ne le fait pas. Déjà c'est un gros travail de faire la partie technique, mmh. énergétique. Après il y a la question du modèle économique qui est derrière, soit les impacts sur le PIB ou l'impact sur les emplois créés, etc. Ça, il y a des études qui ont été faites. Donc généralement quand on va vers un modèle sobre, on crée des emplois. Donc la création d'emplois, ça, il y a des études qui le prouvent. Pour le PIB, ça, c'est pas clair en fait. C'est pas forcément une décroissance économique en ayant une... Alors après, bon voilà, c'est l'ADEME, je pense, qui a lancé une étude que je devrais retrouver parce que ça intéresse tout le monde, évidemment, ce sujet-là. Si on écoute Jean-Marc Jancovici que tu citais, pour lui, d'office, il y a décroissance économique. Si on a des croissances de l'énergie. J'ai encore mes doutes sur la question dans un autre type d'économie. Mais en tout cas, pour moi, il faut pas... Ben voilà, le modèle de la croissance n'est pas forcément la chose à maintenir. C'est la planète et c'est les habitants.
Moi, je suis tout à fait d'accord, mais je réfléchis à... On est assez peu à être d'accord avec ça. C'est ça qui me fait peur. Peut-être que des gens comme Aurélien Barraud ou Jean-Marc Jancovici peuvent convaincre déjà pas mal de gens, mais ça restera encore une minorité. La majorité, il va falloir trouver un moyen de les convaincre, qui ne pètent pas les plombs, qui ne votent pas des partis totalitaires. Ça reste vraiment de la pédagogie à réfléchir, hein, quand même, beaucoup. Quoi.
C'est de l'économie, je pense, vraiment au sens propre. On a envie d'avoir un... Alors, je ne sais pas si c'est un niveau de vie, parce que le niveau de vie est aussi une partie culturelle, mais en tout cas, on a besoin d'avoir un minimum, et on peut pas... Je pense que ça va être dur à accepter si on a quelque chose de brusque, et surtout si c'est mal réparti. Parce qu'il y a la question c'est aussi toutes des études sur c'est quoi la pauvreté, etc. Parfois, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de relatif.
Tout à fait.
Et du coup, il y a un gros indicateur, à mon avis, qu'on va forcément mettre dans nos indicateurs sociaux, parce qu'en fait, on n'a pas encore tout à fait notre modèle bien affiné, on commence juste à travailler là-dessus. C'est la question des inégalités. Donc, le taux d'inégalité dans la société. Et je pense que là, on a, évidemment, si on voit, on en voit qui continue et que nous, on est juste contraints à tout abandonner, ça ne tiendra pas.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un risque aussi? Alors, bon, je ne sais pas combien de temps on a. Est-ce qu'on a 2 heures? On a 1 heure?
Non. On est bientôt au bout.
C'est ça. Donc, on ne va peut-être pas commencer des grands débats, voilà, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
Je pense que, en fait, peut-être on pourrait juste, pour finir, on va pas passer de pause musicale maintenant. On terminera avec le morceau pour la fin. Donc j'avais prévu pour la fin. À moins que ton choix soit, mais il va relancer le débat. Ton choix, je
non,
l'imagine.
Non, non. Choix FM.
C'était juste un choix musical.
On peut terminer par ça.
Mais moi, je trouvais pas mal de finir avec les Tina Wayne. Si.
Alors, j'ai pas choisi
Tina Wayne. C'est pas Tina Wayne.
Non.
C'est pas grave. Ben, on finira avec ton choix musical alors. Ok. Mais alors, je fais une petite page de publicité sans effets collatéraux au niveau dépenses énergétiques. Je vous rassure tout de suite. Donc, il y a en fait la projection d'un film qui touche aux questions. On n'a pas eu le temps de parler tellement de développer cette question de l'uranium. Dans un autre moment, tu m'avais fait part, voilà, du fait, et j'avais moi-même constaté dans les journaux que beaucoup de partis étaient dans cette piste de réouvrir l'uranium en Belgique. D'ailleurs, j'ai tombé sur une petite note.
L'uranium, non, de faire des nouvelles centrales nucléaires.
Voilà, c'est ça.
Je pense pas qu'on a de l'uranium dans le sol.
Non, de continuer sur le nucléaire. Merci pour la précision.
Alors, chercher ailleurs.
Alors c'est vrai qu'il y a justement un film qui va passer donc ce jeudi à l'aventure. Il s'agit du groupe Attack et ça s'appelle La colère dans le vent et ça parle de l'exploitation d'uranium au Niger. Voilà, donc La colère dans le vent, ce sera à l'aventure ce jeudi à 20h30. Donc un reportage sur l'exploitation des gisements d'uranium qui alimente nos centrales nucléaires. Il précise ici, donc à mon avis, c'est pas que la France, c'est aussi la Belgique. Et donc la Belgique, comme tu disais, importe de l'uranium. Hein, c'est ce que tu voulais souligner, peut-être.
Sébastien,
on n'a pas le choix. Mais donc voilà, ce qui soulève aussi ici, c'est le fait que finalement les Touaregs, dont on a parlé hein, dans cette émission à différents moments, mais qui font aussi de la musique. Ben eux, ils ont essayé de défendre, en quelque sorte, les terres au Niger contre ces exploitations d'uranium. Et donc le film parle un petit peu de ça. Voilà, donc ça c'est ce jeudi à 20h30, La colère dans le vent. Un film, une projection organisée par Attack. Voilà, donc oui, conclure peut-être vite fait, hein, puisqu'il nous reste 2-3 minutes, je ne connais pas la durée de la chanson d'Hubert, mais il y a donc l'aspect sensibilisation évidemment, dont on a déjà parlé, l'aspect économie, enfin parler d'économie, mais en groupe plus large, débat citoyen et tout ça. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais peut-être si tu veux rajouter un dernier petit élément avant de se quitter.
Quand même, en fait, évidemment, ça part de l'idée que c'est pas des gens qui pensent en théorie, qui doivent finalement orienter les décisions politiques et que ça doit rester entre guillemets dans des espèces de bureaux, etc. C'est qu'en fait, par contre, ça a une utilité de faire des calculs et de regarder, tiens, qu'est-ce qui est faisable, et après de le mettre en débat. Donc il y a un côté, moi je dirais pas sensibilisation, parce que, enfin, c'est pas comme ça que je le vois. Sensibilisation, c'est dire je veux changer les comportements d'autrui. Moi je vois vraiment ça comme on voudrait bien que les gens s'approprient la question, avec de la vulgarisation évidemment, mais pour se positionner par rapport aux choix énergétiques que la commune, la région, l'État, l'Europe, enfin, toutes les décisions qui vont être majeures, qui vont être prises. Alors évidemment, on va pas pouvoir faire ça, parler de tout, et on va faire des débats à quelques endroits. Alors a priori des débats ouverts, donc pas des débats par tirage au sort avec des groupes tirés au sort, mais laisser venir chacun, mais par contre aller chercher les gens qui viennent pas, pour essayer quand même d'avoir un espèce de public un petit peu, pas exactement, mais un petit peu représentatif de là où on est, et alors de leur demander de se positionner sur une, deux questions en un temps court. Ça c'est notre idée, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, personne n'a du temps, et donc si on vient une demi-journée ou une journée, c'est déjà pas mal. Et ça, on veut faire ça partout en Belgique. Et là, on est en train de mettre en place un outil pour faire ces débats citoyens. Et donc, vous entendrez parler quand on lancera la machine.
Ce qui s'était passé en France avec, je ne sais plus, ils avaient invité 100 ou 150 personnes.
Ça, c'est la Convention Climat.
Convention Climat était très intéressante. Bon, ils n'ont rien retenu de cette Convention Climat, hélas. Mais l'idée était pas mal. Et c'était très étonnant que les citoyens choisis un peu au hasard comme ça avaient des idées quand même qui allaient plutôt dans le sens de la sobriété que dans le sens de la consommation. C'était étonnant.
Attention, on est vraiment à la fin là, donc ouais. Très très court, Sébastien, si on veut avoir un tout petit bout de la chanson d'Hubert. Parce que après c'est ça, c'est moi qui le slow.
Il y a même une étude qui prouve qu'en gros, au niveau européen, les citoyens sont 3 à 4 fois plus ambitieux que ce qui se trouve dans les plans nationaux énergie-climat.
Okay.
Qui sont des obligations. Les États se contraignent, enfin, sont contraints de remettre leur plan national énergie-climat. Et ben, généralement, il y a 4 fois plus de sobriété dans les panels citoyens en Europe.
Ah ben moi, je propose, Aymeric, qu'on reste sur cette note super positive.
Effectivement.
Voilà. Et qu'on se dise bonsoir.
Peut-être juste, il y aura peut-être les références.
Oh ouais, donc, on mettra les références peut-être dans l'article.
Il y a moyen, si vous voulez nous soutenir, de se faire membre, adhérent ou effectif, de venir nous aider dans des groupes de travail. Et puis notre site, c'est negawatt.be. Donc nega avec un N. Et watt avec deux T. Enfin, les watts, la puissance.
Ça, vous savez. Et donc, le site, alors, on mettra le lien précis du site, hein, parce que tu dis que c'est negawatt.be, mais c'est pas exactement ça. Hein.
Si, c'est parce que tu as eu accès au nouveau que
tu n'es pas prêt. Bon, d'accord. Bon, un grand merci Sébastien, en tout cas, pour ces petites introductions à tout ce que vous faites. Hein, il y a énormément. Et on va se quitter, donc merci Hubert pour la technique et toutes les participations. Et donc, voilà, il y a une spéciale Franck Zappa qui nous attend dans Moi, Krill Sloa ce soir. Alors, bonne écoute à tous et bonne soirée sur Radio Panique.
Vive au temps présent, je n'y pensais pas vraiment. Je regardais devant vers un hypothétiquement. J'ai oublié bêtement de savourer le moindre instant. Éclat de vie, tous ces diamants qui sont perdus maintenant. On ne revient pas à l'arrière, on ne peut pas rembobiner. Le film d'une vie entière, c'est pas la peine d'essayer. On a beau se mettre en colère et exprimer tous ses regrets, tout ce qui restera à faire, c'est de continuer d'avancer. Lorsque ton monde s'effondre, est-ce la fin ou un nouveau départ? Difficile de répondre, mais il faudra le faire tôt ou tard. Lorsque ton monde s'effondre, est-ce la fin ou un nouveau départ? Difficile de répondre, mais il faudra le faire tôt ou tard. La tyrannie des souvenirs est à éviter à tout prix. Du moins ceux qui nous font souffrir, ne gardez que les plus jolis. Ça sert à rien de se maudire, se reprocher tous ces oublis. Il vaudra mieux se réjouir de ce que l'on a accompli. Que doit-on croire ou ne pas croire? Quoi qu'il en soit, chacun écrit jour après jour sa propre histoire, jusqu'au moment où tout est dit. De l'autre côté du miroir, c'est l'inconnu, c'est l'infini. Il y a ce que l'on veut y voir, car après tout, tout est permis. Lorsque ton monde s'effondre, est-ce la fin ou un nouveau départ? Difficile de répondre, mais il faudra le faire tôt ou tard. Lorsque ton monde s'effondre, est-ce la fin ou un nouveau départ? Difficile de répondre, mais il faudra le faire tôt. Et à la fin, que reste-t-il? Peut-être ce qu'on a transmis. Quelque chose de subtil, un sentiment, une énergie. Un chemin que l'on a tracé ou qu'on a simplement suivi. Qui part de loin dans le passé, qui est toujours là aujourd'hui. On voudrait que la vie soit belle, qu'elle le reste tout le temps. Parfois elle devient cruelle, on se dit que tout fout le camp. C'est comme au jeu de la marelle où l'on avance en claudiquant. On va de la terre jusqu'au ciel, on vit tout ça au temps présent.